une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver après une pause estivale, mais l'émission a continué grâce à François Mazet et Éric Bataillon. Merci à eux. Une semaine d'actualité entame sa 20e saison avec les reportages de la rédaction et nos invités, 20 ans d'actualité. Et donc, merci de votre fidélité avec nous ce samedi. Gabriel Martinez-Gros, il est professeur d'histoire de l'islam médiéval et vient d'écrire « Fascination du djihad, fureurs islamistes et défaite de la paix », un livre édité au PUF. Bonjour Gabriel Martinez-Gros.
Bonjour Pierre.
Je suis ravi de vous retrouver. Nous avions eu une discussion passionnante dans Idée il y a quelques années. De cela, sur les empires.
Hein. Tout à fait.
Vous êtes un spécialiste de l'islam. Et le petit livre que j'ai sous les yeux est un véritable coup de poing. C'est un livre très puissant. L'historien que vous êtes prend du recul pour mieux comprendre les temps que nous connaissons aujourd'hui, l'actualité. Et ça, j'aime beaucoup, notamment dans cette émission. C'est pour ça que j'ai voulu vous inviter dans le cadre de cette émission. C'est reculer pour mieux comprendre.
Oui, absolument. Et c'est même reculer assez pour perdre un tout petit peu de vue l'islam, c'est-à-dire que l'islam n'est pas la seule région du monde qui connaisse ces phénomènes qui nous inquiètent, évidemment, en particulier les phénomènes de la violence des marges. Je me suis servi d'un grand historien musulman, Ibn Khaldoun.
Ça, c'est très important. On en avait déjà parlé dans l'autre émission, effectivement, avec Hamid Bozarslan, que vous connaissez bien également.
Bien
Il faut rappeler qui était Ibn Khaldoun.
C'est un historien du 14e siècle, donc c'est un homme qui a vécu fort loin de nous. Il est né à Tunis, il est mort au Caire, et il a écrit en arabe l'essentiel de son œuvre. Mais ce qui est significatif, presque incompréhensible, il est vrai, c'est que cette œuvre, elle est aujourd'hui d'une pertinence et d'une actualité étonnante.
Alors, il faut rappeler quelle est sa thèse, si on peut la rappeler en quelques secondes.
On va essayer. Alors, la thèse fondamentale d'Ibn Khaldoun, c'est que dans une société stable économiquement et démographiquement comme celle où il vit au XIVe siècle, et même en relative régression à cause de la peste, la seule manière de créer de la richesse, car le but de l'État c'est de créer de la richesse et non pas de faire la guerre, le seul moyen de créer de la richesse c'est l'impôt, c'est de concentrer par l'impôt la richesse dans la ville, et dans la ville, grâce à cette concentration de richesse et de ressources humaines qui accompagnent la richesse, les métiers se diversifient, se développe, et cette diversification amène les seuls gains de productivité, donc les seuls gains économiques possibles dans une société normalement stagnante. Il n'y a qu'une seule exigence absolue à ce processus, c'est que les gens soient désarmés, que l'immense majorité de la population soit désarmée, parce que des gens armés ne paieraient pas l'impôt, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils briseraient le mécanisme, l'ordre, le ressort principal de l'État, qui est de lever l'impôt pour accroître la richesse et développer la prospérité. Et donc, la violence doit être reportée aux périphéries, aux marges. C'est dans les marges que les empires organisés, même les mieux organisés, vont chercher la violence dont ils ont besoin, le peu de violence dont ils ont besoin, à la fois pour assurer l'ordre dans leur troupeau producteur, si j'ose dire, et pour défendre ce troupeau qui est désarmé, qu'ils désarment, contre les agressions extérieures, les agressions des tribus en particulier. Voilà.
Alors Gabriel Martinez-Gros, on va voir dans un instant en quoi cette thèse d'Ibn Khaldoun du XIVe siècle nous intéresse aujourd'hui, grâce à votre livre « Fascination du djihad », mais on va passer en revue l'actualité. Et après le flash, rendez-vous avec l'actualité africaine et vos messages et le retour des messages des auditeurs, de vos messages. Écrivez-nous donc. De l'Afrique, il va être de suite question avec mardi à Libreville une cérémonie en hommage aux victimes des violences d'après élection au Gabon la semaine dernière. Donc, reportage de notre envoyé spécial Sébastien Nemeth.
Devant un QG encore criblé de balles, en certains endroits, l'hymne national est entonné par des dizaines de personnes. Elles se recueillent devant un hôtel baptisé « La chapelle des combattants de la liberté, morts pour la patrie ». Pour Anaclé Bissiello, les violences renforcent l'opposition dans son combat.
Il est trop tôt pour parler de deuil et de catharsis. Il s'agit simplement de réaffirmer la détermination, de dire aux familles endeuillées que les personnes qui sont mortes, que les corps qui ont été emportés ne sont pas tombés en vain, et que nous avons payé un prix élevé à travers leurs pertes et qu'il s'agit d'aller au bout. Le deuil viendra après.
Une gerbe de fleurs est déposée, les personnes présentes marchent en silence autour de la place. puis viennent une à une s'incliner, se signer ou allumer une bougie sous le drapeau gabonais. Pour Jean Albert, cet hommage soulagera les familles.
Je pense que les organisateurs ont pensé qu'il fallait bien le faire pour la mémoire de ceux qui sont quand même partis. Parce que ceux qui sont morts ne sont pas réellement morts, ils nous voient. Donc c'est quand même nécessaire pour apaiser ceux qui sont partis et même les familles.
Un homme savant, c'est se déshabiller entièrement pour réaliser un rite mouiri. Il se met à courir en lançant des incantations et en frappant par terre des troncs d'arbres afin de conjurer le mauvais sort.
7 jours d'actualité dans le monde, donc une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site rfi.fr. Avant de vous retrouver, Gabriel Martinez-Gros, et de continuer à parler du djihad, partons pour l'Allemagne afin de revenir sur la défaite d'Angela Merkel à une élection régionale symbolique dans son fief du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale à Berlin dimanche. Pascal Thibault.
Ce résultat est peut-être le début de la fin pour Angela Merkel. La tête de liste du Parti populiste alternatif pour l'Allemagne, AfD, triomphe. Sa campagne contre la politique migratoire de la chancelière, contre les réfugiés et sur les questions de sécurité a été couronnée de succès. Le parti, pour sa première participation aux élections dans le Mecklembourg, arrive en deuxième position avec plus de 21% des voix devant la CDU. Certes, les trois partis de gauche, les sociodémocrates qui gouvernent la région avec les chrétiens démocrates, les Verts et le parti de gauche, Die Linke, perdent à eux trois 15% par rapport au dernier scrutin. Mais la gifle reçue par la CDU, rétrogradée en troisième position dans une région où se trouve la circonscription de la chancelière, constitue un choc pour le parti chrétien-démocrate. La politique migratoire d'Angela Merkel a joué un rôle central dans la campagne et provoque des états d'âme chez les Allemands en général, mais aussi au sein de son parti. Les critiques des chrétiens-démocrates risquent d'augmenter à un an des élections générales, alors que la question d'une nouvelle candidature de la chancelière sortante au pouvoir depuis 11 ans se pose.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Gabriel Martinez-Gros. Avec lui, nous parlons du djihad à l'occasion de la parution de son livre « Fascination du djihad, fureurs islamistes et défaite de la paix ». Vous avez, Gabriel, commencé à nous expliquer la thèse d'Ibn Khaldoun qui est au cœur de votre livre. Il y a un pays aussi qui est au cœur de votre livre, c'est la Chine, on en parlera aussi, bien entendu. Alors, il y a l'importance de l'impôt, ces populations qui vivent grâce à l'impôt, et il y a la violence qui est externe, qui est mise aux marges, ce qui veut dire qu'il y a deux populations.
Voilà, il y a deux populations, et en quoi cela nous concerne-t-il?
Oui.
Depuis deux siècles, en gros, nous sommes sortis de ce monde stagnant, et la révolution industrielle a apporté spontanément tant de richesses au monde, et tant de multiplication des hommes. Mm-hmm. Il faut se souvenir que le nombre des hommes a été multiplié par 10, ou aura été multiplié par 10 entre l'an 1800 et l'an 2050, ce qui ne s'était jamais vu dans une période de temps aussi courte, qu'on a oublié ce qu'était les conditions d'une société qui progresse un peu moins vite, ce qui sera probablement le cas de la société du 21e siècle. Alors, quel est le vrai problème? Le vrai problème, ce sont nos progrès, justement. Le vrai problème, c'est que ce que nous appelons nos problèmes, en particulier évidemment la violence des marges, l'islamisme, le djihadisme, ne sont que les effets pervers ou les effets secondaires, comme on dit dans une cure thérapeutique, ce sont les effets secondaires d'un grand bien, qui est l'expansion de la prospérité, l'expansion de ce que Ibn Khaldoun appellerait la sédentarisation, c'est-à-dire l'expansion de la scolarité généralisée au monde entier aujourd'hui, l'expansion l'urbanisation, la majorité de la population mondiale est désormais une population urbaine, et avec une petite exception africaine ou un petit retard africain, la réduction du nombre des enfants dans les couples. Toutes ces évolutions sont des évolutions favorables. En particulier la dernière et la plus grande, qui est le vieillissement de la population mondiale. Mais en même temps, parce que le vieillissement de la population mondiale veut dire que on nous fait vivre de plus en plus longtemps. Mais en même temps, ces évolutions favorables nous désarment, et elles ont pour but, ces évolutions, de nous désarmer, c'est-à-dire de nous faire vivre sans armes, de nous faire vivre dans un monde pacifique et pacifié. Mais cette pacification des grandes masses, de 90 ou 95% de la population mondiale,
urbaine,
dégage par contraste la violence des marges. Et le problème, quand nous essayons d'agir sur ces marges, qu'il s'agisse de la vallée de l'Euphrate ou des favelas de Rio, c'est que nous pensons que le problème...
Certaines banlieues en France. France.
Ou de certains orients tout à l'heure. France, disons-le, ouais. Franchement. C'est que nous pensons que le problème, c'est le leur, alors que le problème, c'est le nôtre, en réalité. C'est parce que nous sommes des armées qu'ils sont par contraste ou qu'ils apparaissent par contraste à la fois solidaires et violents, car les solidarités et la violence vont le plus souvent ensemble. C'est parce que nous oublions totalement l'existence de la violence dans l'histoire que nous en sommes là, en fait.
Alors, Gabriel Martinez-Gros, dans votre livre, qui est un livre, un petit livre très puissant, qui est un coup de poing, vous allez même plus loin, vous écrivez « Les questions que posent les phénomènes de violence des marges, donc, qui s'amorcent, et en particulier du djihadisme, et donc de savoir si les sociétés démocratiques ou sociétés de masse, entre parenthèses, n'auront pas été qu'une simple parenthèse historique des deux siècles. »
Voilà. C'est-à-dire que nos sociétés ont pu tenir comme elles ont tenu pour deux raisons dont je crains qu'elles ne soient l'une et l'autre éliminées au XXIe siècle. La première raison, c'est que depuis la Révolution française, toutes nos sociétés démocratiques étaient des sociétés armées. On a oublié que le premier acte de la Révolution française a été de constituer des gardes nationales et donc d'armer le peuple. Tout simplement. Et la deuxième raison, c'est que ces sociétés créaient de la richesse, donc créaient de l'ascension sociale, hein, de l'ascenseur social systématiquement. L'amélioration était en vue pour tous. Or, aujourd'hui, nous sommes des armées. Et de plus en plus, nous ressemblons aux masses qu'Ibn Khaldoun décrit, c'est-à-dire à des masses soumises et fiscalisées. Hein. C'est l'impôt
en France, notamment.
D'État, oui, bien sûr. Mais en fait, aussi un peu ailleurs,
dans tous les pays occidentaux.
Les pays occidentaux c'est effectivement de l'État et donc de l'impôt d'État que nous attendons de plus en plus la résolution de nos problèmes. Et d'autre part, nous ne sommes plus armés. Hein. Le service militaire a disparu. Dans ma génération, d'ailleurs, ma génération porte des responsabilités, disons-le franchement, dans ces évolutions. Et donc, les deux piliers, à la fois l'armement des peuples et le progrès de l'économie, semblent vaciller, disons, peut-être sur le point de disparaître. L'un des deux piliers a franchement disparu, et l'autre semble sur le point de vaciller, de s'effondrer.
Avant de partir pour la Syrie, qui sera notre prochaine étape, Gabriel Martinez-Gros, il faut rappeler l'euphorie qu'il y avait après la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire. Et là, c'est le retour de l'histoire.
Oui, on n'a rien compris. Voilà, disons-le franchement, on a cru... Tout le monde a cru, hein, même si on a...
Que le monde serait pacifié, démocratisé.
Voilà. Même si on a, les grincheux dont j'étais probablement à l'époque, contestaient déjà les thèses de Francis Fukuyama, parce qu'ils sont historiens et qu'ils ont du mal à entendre que l'histoire n'a plus aucun sens. Personne, pas même moi, je dois l'avouer très, très, très franchement, n'imaginait un tel retournement et surtout un retournement si rapide de l'histoire. Une telle vengeance de l'histoire, c'est-à-dire de la violence dans l'histoire.
Alors, nous partons pour la Syrie avec ces derniers jours une série d'attentats revendiqués par l'organisation de l'État islamique, Nicolas Falaise.
L'attaque la plus meurtrière s'est produite à Tartous, fief du régime de Bachar el-Assad sur la côte syrienne. Tartous qui abrite aussi une base navale russe. Selon la télévision d'État, une voiture piégée a explosé sur un pont en périphérie de la ville. Puis un kamikaze a déclenché une seconde charge, fauchant des personnes venues secourir les blessés. À Homs, dans le centre de la Syrie, une autre attaque a fait des victimes dans un quartier majoritairement peuplé d'Alaouites, la communauté à laquelle appartient le président syrien. Bachar el-Assad. Explosion également ce lundi, non loin de Damas, la capitale. Enfin, dans le nord-est du pays, c'est Assaké, une localité tenue par les milices kurdes de Syrie, qui a été visée par un kamikaze à moto. Ces attaques simultanées ont été revendiquées par le groupe État islamique via son agence Hamak. Elles surviennent alors que l'organisation djihadiste enchaîne les revers militaires en Syrie. La Turquie et l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirment que le groupe État islamique a été chassé de la frontière turco-syrienne.
Partons pour l'Afghanistan pour revenir sur des attentats, encore des attentats revendiqués cette fois par les talibans à Kaboul, la capitale. Ils ont fait plusieurs dizaines de victimes. Les talibans plus que jamais présents donc en Afghanistan, malgré plus d'une décennie de présence militaire internationale. Et la population de la capitale a donc peur. Reportage de Mélanie Kominek.
À Kaboul, la population n'a qu'un seul mot à la bouche, la sécurité. Vivre sous la menace est devenu une habitude, mais les habitants sont de plus en plus effrayés, comme nous l'explique Nasser, chauffeur de taxi dans les rues de la capitale.
C'est vraiment difficile pour les gens de vivre normalement à Kaboul maintenant. Tout le monde est terrifié. Comment peut-on aller au travail dans ces conditions? Même les enfants ont peur d'aller à l'école. Tout le monde vit avec la boule au ventre.
Armad, lui, est un jeune entrepreneur de 28 ans qui s'interroge sur la situation globale du pays.
Chaque année, durant l'été, la situation empire. Cette année, il y a eu encore plus d'attaques et maintenant elles sont ciblées. La plupart des victimes sont en général des civils et c'est vraiment triste. De plus, l'économie du pays est en baisse et ces attaques affectent réellement les gens ordinaires. Ils ne sont pas capables de réparer les magasins ou remplacer ce qui a été détruit.
Mathioula, jeune étudiant francophone de 21 ans, est aussi très inquiet.
Avant, il y avait des zones ou bien des quartiers qu'on savait qu'il y a les menaces de sécurité et il faut être vigilant, mais pas partout. Mais de nos jours, il y a les menaces, des risques partout.
Cette flambée de violence dans la capitale fait écho à l'intensification de l'offensive talibane dans le pays. Il faut dire que la situation sécuritaire s'est nettement détériorée depuis le retrait des troupes de la coalition internationale en décembre 2014.
À suite d'une semaine d'actualité, on peut dire, Gabriel Martinez-Gros, que l'Afghanistan est un échec.
On peut dire que l'Afghanistan est un échec, c'est probablement
un échec
la région...
pour ce qu'on appelle la communauté internationale.
Voilà. C'est probablement la région où les résultats obtenus par l'intervention internationale en 2001 sont le plus près de s'effondrer, de s'effacer. À une exception près, qui prouve que la sédentarisation, comme dit Ibn Khaldoun, c'est-à-dire le progrès de la scolarisation, de l'urbanisation, sont universels, c'est qu'on est passé en Afghanistan de 7 enfants par famille en moyenne en l'an 2000, lorsque les talibans étaient encore au pouvoir, mais c'était une situation traditionnelle, à 4,5 environ enfants par famille. En une quinzaine d'années, c'est une baisse de la fécondité extrêmement rapide. Et au moins, on peut porter cet aspect-là des choses, hein, cet aspect de la sédentarisation, de la civilisation, de la pacification d'une part importante de la population, en particulier celle de la capitale Kaboul, au crédit des forces internationales. Mais c'est la seule chose. Il est probable que les talibans vont l'emporter dans les années qui viennent, peut-être même dans les mois qui viennent.
Dans votre livre, qui est une analyse de l'œuvre, vous êtes un spécialiste, je le rappelle, de l'islam médiéval, votre analyse de l'œuvre d'Imr al-Doum, vous dites que... En fait, l'empire, est-ce qu'on peut parler de l'Occident en termes d'empire aujourd'hui? L'empire occidental?
Oui, la communauté internationale, c'est l'empire, c'est ça.
Cette idéologie, vous dites que l'idéologie de cet empire, c'est la paix.
Oui, oui, absolument.
L'idéologie.
Oui, l'idéologie, oui, le mot est fort parce qu'il porte une idée de fausseté hein, en lui. Mais c'est ça, l'Empire est dramatiquement attaché à la paix. Il est surtout dramatiquement attaché à l'idée qu'il n'a pas d'ennemis. Car s'il avait un ennemi, cela prouverait qu'il y a un autre projet que le sien.
Il a longtemps eu un ennemi, je pense notamment à la guerre froide, justement, le communisme.
Bien sûr. Et là, notre empire n'était pas total. Mais aujourd'hui, toutes les grandes puissances, y compris la Chine, semblent partager à peu près, la même vision des choses. D'où la négation absolue, par exemple, par l'administration Obama, de l'existence d'un projet idéologique sérieux derrière le djihadisme, ce qui est une erreur.
Ouais, vous dites,
il y a un projet idéologique.
Vous revenez d'ailleurs sur certains propos de Barack Obama concernant l'organisation de l'État islamique qui sont assez étonnants.
Assez étonnants, oui. Une équipe de basket de 3e division dont je n'ai pas besoin de me préoccuper, a-t-il dit il y a déjà un certain temps. Oui. Et évidemment, c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur personnelle. C'est l'erreur de l'Empire. L'erreur de l'Empire, c'est de penser que ceux qui s'opposent à lui ne sont que des délinquants tout au plus, mais qui n'ont pas de véritable projet. L'ennemi idéal de l'Empire, c'est le cartel de la drogue latino-américain. C'est-à-dire, finalement, une organisation criminelle dont le but du chef, El Chapo Guzman, par exemple, dans le cas du cartel de Sinaloa au Mexique, c'est de faire un film avec Sean Penn. C'est de passer à Hollywood. Ça va, parce que l'idéologie de l'Empire, enfin la prééminence idéologique de l'Empire n'est pas mise en cause.
Sauf que vous dites, on va en reparler tout à l'heure dans quelques minutes, que les djihadistes, eux...
Ah mais oui, les djihadistes, eux, ils ont effectivement une doctrine cohérente.
Gabriel Martinez-Gros, nous allons donc marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.
Thank you. retrouve-nous pour notre revue de 7 jours d'événements avec notre invité et les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Notre invité est Gabriel Martinez-Gros. Il est professeur d'histoire de l'islam médiéval et vient d'écrire au PUF « Fascination du djihad, de fureurs islamistes et défaite de la paix ». Dans quelques minutes, comme d'habitude, nous partirons pour l'Afrique, au Gabon exclusivement cette semaine. Mais pour le moment, passons quelques minutes en France avec d'abord une manifestation des habitants de Calais qui en ont assez de la présence massive dans leur ville de migrants voulant gagner l'Angleterre. Reportage lundi de Mathieu Darrier.
Nous réclamons des moyens exceptionnels pour l'arrêt immédiat des assauts quotidiens sur la rocade portuaire et sur la 16.
Le président du Grand Rassemblement du Calaisis prend la parole pour rappeler le contexte et les consignes. Puis, gilet jaune ou orange sur le dos, le cortège monte sur la rocade portuaire comme pour la protéger des assauts nocturnes des migrants, explique un docker.
Les migrants, ils n'ont aucun respect de la ville de Calais. On est en train de perdre tous les trafics à Calais. Au mieux d'entourer Calais, on fera bien d'entourer le camp.
Le ministre de l'Intérieur a bien confirmé que la jungle sera démantelée, mais quand les manifestants veulent des actes comme Hervé Caux de la CGT du port.
Il est important de continuer à mettre la pression. Nous, à l'heure actuelle, on est dans une situation d'étranglement et il faut qu'on fasse voir au gouvernement que nous sommes déterminés de façon à éradiquer cette situation qui devient de plus en plus explosive.
En voulant porter aussi un message positif sur la ville, de nombreux manifestants arborent le t-shirt « I love Calais » ou encore des drapeaux.
C'est le drapeau de Calais, parce que je viens défendre ma ville et il y a un ras-le-bol général et les gens en ont marre, se sentent mal, sont démoralisés. Dans Calais, c'est mort.
Après la chaîne humaine sur la rocade, les manifestants, acteurs économiques, élus locaux et riverains de la jungle ont prévu de rejoindre les deux convois de camions qui vont bloquer l'autoroute au moins jusqu'à ce soir.
C'était lundi, donc politique et justice. Maintenant, le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour le financement illégal de sa campagne électorale en 2012, Raphaël Rennes.
Pour le parquet de Paris, Nicolas Sarkozy a commis au moins deux délits qui méritent d'être jugés. D'abord, selon les magistrats, l'ancien président a dépassé le plafond des dépenses électorales pour sa campagne de 2012. Ensuite, il a fait état, dans son compte de campagne, d'éléments comptables sciemment minorés, deux accusations pour lesquelles le parquet requiert donc le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. Les juges d'instruction décideront dans un mois, au plus tôt, s'ils suivent ou non ces réquisitions. Un délai minimal qui risque fort d'être rallongé par les recours de procédure que les avocats des prévenus pourraient introduire. En dehors de Nicolas Sarkozy, le parquet requiert le renvoi de 13 autres personnes soupçonnées d'avoir participé à la mise en place d'un système de fausses factures pour imputer à l'UMP près de 20 millions d'euros de dépenses électorales qui auraient dû figurer dans les comptes du candidat Sarkozy. À un peu plus de deux mois de la primaire de la droite pour la présidentielle de l'an prochain, un renvoi en correctionnel serait malvenu pour l'ancien président français, mais le risque est moindre. La jurisprudence n'a jamais renvoyé un candidat devant un tribunal à quelques mois d'une élection.
Dans la rubrique politique et justice, notez aussi que Jérôme Cahuzac, dont le procès pour fraude fiscale et blanchiment a commencé lundi, a affirmé que son premier compte bancaire ouvert en Suisse servait au financement de l'activité politique de Michel Rocard, décédé récemment. L'ancien Premier ministre ne pourra donc pas se défendre. Justice toujours, mais entre la France et l'Afrique, cette fois, le fils du président de la Guinée équatoriale est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des biens mal acquis. De quoi est-il accusé exactement ? Réponse de Florence Maurice.
Un hôtel particulier de 4000 m² dans le très chic 16e arrondissement de Paris, des robinets couverts de feuilles d'or, une impressionnante collection de voitures de luxe, des œuvres d'art. De quelle manière Théodorine Obiang, alors ministre de l'Agriculture et des Forêts, a-t-il bien pu se constituer en France un tel patrimoine ? C'est tout l'enjeu du procès à venir que de répondre à cette question. À en croire les réquisitions du parquet citées par l'AFP, l'enquête a notamment révélé un gigantesque système de détournement de fonds. Entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros du trésor public de Guinée équatoriale auraient atterri directement sur le compte personnel du fils du chef de l'État. Mais ce n'est pas tout. Théodorine Obiang est aussi accusée d'avoir perçu des commissions occultes sur certains contrats et d'avoir détourné des taxes liées à l'exploitation du bois, l'une des principales ressources du pays. Des témoins cités dans la procédure racontent comment ces taxes lui étaient versées, soit directement en liquide, soit sur les comptes de la Somalie, Magui Forestal, une entreprise d'exploitation de bois dont il avait le contrôle.
Une semaine d'actualité en compagnie de Gabriel Martinez-Gros et nous parlons avec lui du djihad. Il faut aussi signaler dans l'actualité le discours de début de campagne quasiment de François Hollande jeudi à Paris, Salvagram, tout un programme. Le nom est symbolique et l'arrestation de trois jeunes femmes radicalisées jeudi soir dans l'enquête sur la découverte d'une voiture contenant des bouteilles de gaz près de Notre-Dame à Paris, en plein cœur de Paris, le cœur touristique qui plus est. Arrestation de trois jeunes femmes, Gabriel Martinez-Gros, fascinées par le djihad, pour reprendre votre titre.
Absolument, le fait peut-être le plus caractéristique, le plus troublant, j'allais dire le plus dérangeant, y compris pour la thèse que je soutiens dans ce livre, c'est que ce sont des jeunes filles ou des jeunes femmes. Parce que l'une des thèses que je soutiens assez volontiers, pour avoir été professeur un certain temps dans l'enseignement secondaire de nos banlieues, c'est que ce qui sépare les candidats au djihad en particulier de nous, ça n'est pas seulement une différence de statut social, disons, bien sûr, hein, ou de richesse, c'est une différence de valeur. Et pour une large part, ce sont des jeunes gens, mais alors souvent des garçons, qui refusent les valeurs pacifiques et pacifiées que l'école leur apporte.
Et ça, vous dites, avec sans doute juste raison, Gabriel Martinez-Gros, qu'on regarde toujours les banlieues, certains quartiers de certaines banlieues, comme étant des quartiers pauvres, mais rarement comme des quartiers de dissidence, pour reprendre le mot, de dissidence.
Et que ce sont des quartiers déjà de dissidence, bien sûr. On ne peut pas comparer la dissidence, entre guillemets, d'Aubervilliers ou de Saint-Denis à celle d'une favela brésilienne. Dans une favela brésilienne, qui est le stade ultime de la dissidence, vous avez une véritable frontière, qui est souvent marqué par un obstacle presque invisible, une voiture en travers du chemin, ou un tronc d'arbre abattu. Mais si vous franchissez cette frontière, ce qui arrive à certains à cause du développement des GPS au Brésil comme ailleurs, et des GPS qui se trompent, on vous tire dessus, tout simplement. Alors évidemment, à Aubervilliers ou à Saint-Denis, il n'en est pas, heureusement, encore question, mais ce sont des lieux de dissidence avec... effectivement, assez souvent, dans le discours, des valeurs qui sont des valeurs supposées viriles, et en particulier, effectivement, des valeurs de violence. La violence est vue comme une valeur positive, bien sûr, hein, qui ne sont pas celles qu'on leur enseigne à l'école, qui ne sont précisément pas celles qu'on leur enseigne à l'école. Hein. Une des attractions de ces valeurs, une des fascinations qu'exercent ces valeurs de violence, c'est précisément qu'elles sont opposées à celles qu'on essaye de leur inculquer ailleurs.
D'où cette image chez certains d'entre eux de lâcheté.
Absolument.
Que nous avons,
absolument. C'est-à-dire que c'est un point qui nous est très difficile à avouer, qui nous est très douloureux, mais de fait, la plupart du temps, les professeurs n'ont plus de prise sur le discours, sur l'esprit d'un certain nombre de jeunes gens. Alors, en principe, plutôt de garçons, mais il est très évident, l'exemple que vous citiez il y a un instant des trois jeunes filles le montre, que de plus en plus, c'est le cas aussi chez ces jeunes filles.
C'est-à-dire que notre refus de la violence est assimilé à une lâcheté.
Assimilé à une lâcheté, purement et simplement. Et c'est pour ça qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, que nous essayons de ressaisir le minimum de violence qui est nécessaire à l'exercice de la citoyenneté, comme l'ont fait nos pères et nos grands-pères, hein, qui savaient qu'ils pouvaient être le cas échéant, convoqué par la patrie pour une guerre mondiale. Hein, ils l'ont été à deux reprises pour les Français, pour beaucoup d'autres Européens. Bien entendu, cela montre bien que cette formation d'origine révolutionnaire et démocratique qu'était la France de l'entre-deux-guerres, par exemple, avait aussi ses effets pervers, hein, bien sûr. Mais il est clair que seul le peuple en armes peut imposer une structure idéologique qui s'impose à l'esprit des jeunes de banlieue. Hein, il est clair qu'ils sont aujourd'hui en déshérence, et s'ils sont en déshérence, c'est effectivement du fait de notre médiocrité, il faut bien le dire.
Ouais. Une médiocrité que vous retrouvez, que vous analysez aussi dans ce qu'on appelle le tiers-mondisme. Et vous avez, dans la vision que vous développez du tiers-mondisme, qui est une espèce d'arrogance, voilà, qui nous rend aveugles, qui nous a rendus aveugles.
Oui.
Une façon qu'ont les Français, par exemple, de certains Français, les tiers-mondistes, en tout cas, de voir le monde.
Oui, mais c'est
il faut
pas...
s'y arrêter un instant.
Ça n'est pas très éloigné de la façon dont nous voyons les banlieues, dont les professeurs voient les banlieues, c'est-à-dire les pauvres enfants. Ici, je pense que dans le cas du tiers-mondisme, il s'agit de la dernière forme, disons-le franchement, de la colonisation. C'est-à-dire que nous avons perdu dans les années 60 la domination immédiate, nous, Anglais, Français, etc., et quelques etc., Belges, la domination de nos anciennes colonies, mais nous avons conservé cette forme de domination intellectuelle qu'est le tiers-mondisme. Qu'est-ce que c'est que le tiers-mondisme ? C'est dire il n'y a d'histoire que la nôtre, nous sommes les maîtres de l'histoire puisque nous sommes coupables de tout. Hein, c'est une espèce d'impérialisme de la culpabilité. Puisque nous sommes coupables de tout, nous sommes les maîtres de tout.
Ah, vous écrivez, hein, nous sommes coupables de tout parce que nous sommes maîtres de tout, et le contraire est vrai, nous régnons partout puisque nous sommes coupables de tout.
Voilà, absolument. Donc les autres n'existent pas. Hein, fondamentalement, les autres n'existent pas. Et c'est encore l'attitude que démontre l'Occident, très souvent, à l'égard du djihadisme, par exemple. Hein. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas de vraie idéologie. Dans mes conversations particulières avec, pourtant, des historiens de formation, j'ai très souvent entendu l'opinion selon laquelle ces gens-là sont des, entre guillemets, primaires, qui ne pensent pas, ou très peu, des incultes de banlieue. Non, ce ne sont
donc
pas...
Donc on les sous-estime.
On les sous-estime, absolument. Et c'est extrêmement dangereux. Alors, ce qui va nous dispenser du tiers-mondisme, nous sevrer du tiers-mondisme, c'est tout simplement l'attitude du tiers-monde. C'est parce que le tiers-monde ne veut plus du tiers-mondisme. Plus exactement, l'ancien tiers-monde. C'est que la Chine, évidemment, n'appartient plus au tiers-monde et n'a plus avec l'Occident ces rapports de tiers-mondisme qui laisserait croire à l'Occident qu'il est le seul à agir dans le monde. C'est que l'Inde, probablement, aura la même attitude bientôt. C'est que en Amérique latine, au total, les mêmes évolutions sous des formes particulières sont en cours. C'est que l'islam, lui, réclame de nouveau sa place, ses mots et ses valeurs à travers la violence, hein, indiscutablement de l'islamisme. Il reste très très peu de régions dans le monde qui acceptent désormais notre vision tiers-mondiste.
Alors,
total.
La question est de savoir si on peut discuter aujourd'hui de l'islam. Il se trouve aujourd'hui que c'est le début du pèlerinage à la Mecque.
Oui, absolument.
C'est comme ça. Et discuter de l'islam sans faire l'assimilation islam-islamisme.
Alors, il faudrait essayer de le faire, mais on a terriblement reculé depuis 15 ans à ce propos, hein, y compris dans les pays musulmans. C'est-à-dire que...
Y compris dans les pays musulmans.
Tout à fait.
Important.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le cri d'alarme, parce que je prends ça pour un cri d'alarme, du roi du Maroc, il y a quelques semaines, était assez significatif. Il est assez rare que le roi éprouve le besoin de faire une sorte de cours de politique et de théologie...
Pas de vierge au paradis.
Voilà. Et je crois que c'est le signe que, malheureusement, il sent bien que la jeunesse marocaine est terriblement affectée à son tour. Hein, non pas seulement la jeunesse marocaine en Europe, mais aussi, bien sûr, la jeunesse marocaine au Maroc. Je crois que dans beaucoup de pays musulmans, on a commis le tort, les gouvernements en place ont commis l'erreur de penser que leur localisme, l'islam très particulier tel qu'il existait dans leur pays, allait les protéger de ce mouvement international et universel à l'intérieur de l'islam, qu'est le salafisme et au-delà, bien entendu, le djihadisme, c'est-à-dire, par exemple, le soufisme en Algérie ou le chérifisme au Maroc ou, je ne sais pas, le culte des saints en Égypte ou le mouridisme au Sénégal ou etc., etc. Hein. Il y avait toujours l'iranisme au Tadjikistan. Nous sommes des Iraniens et par conséquent, enfin, nous parlons le persan et par conséquent, nous sommes préservés. En fait, rien de tout ça ne résiste au bout du compte à une poussée aussi universelle. Ils font d'ailleurs la même erreur que les officiers coloniaux ou les administrateurs coloniaux il y a 40 ans.
Hein. Ça, il faudra qu'on en reparle, effectivement, parce que dans votre livre, vous avez quelques pages sur les relations entre les colons, enfin les colonisateurs et l'islam. On va y revenir sans doute. Oui. On va partir pour l'Afrique maintenant, Gabriel Martinez-Gros, au Gabon, exclusivement, après les violences post-électorales qui auraient fait 50 morts, selon l'opposition, la semaine dernière. Avec d'abord les premiers jugements des personnes arrêtées il y a quelques jours, reportage de nos envoyés spéciaux Sébastien Nemeth et Boris Vichit.
Au tribunal, les audiences s'enchaînent. Parfois, 10 accusés comparaissent en même temps. Ils reçoivent pour la plupart un rappel à la loi avant d'être relâchés. Arrêté au QG de Jamping, Monique a été retenue à la gendarmerie, puis à la Direction Générale de l'Immigration, avec une centaine d'autres personnes. Au bout d'une semaine, la voilà libre.
On n'a pas vu le juge, c'est le procureur de la République, le président du tribunal, qui sont venus nous donner des conseils, nous dire que c'est pas bien. Nous avons été confondus aux casseurs. Nous avons eu droit à une leçon de morale et une menace. On est libre, mais on est fiché. Ça veut dire que plus on n'est pas libre de nos mouvements, si on a quelque chose, ils vont nous cueillir et nous mettre en prison.
Jacques, son frère, a remué ciel et terre pour la retrouver. C'est finalement au tribunal qu'il l'a revue pour la première fois.
Nous avons été dans toutes les morgues. Moralement, c'est insupportable. Nous gardons l'espoir parce que ce sont des innocents. Nous osons espérer que les magistrats auront une lecture objective de l'innocence de ces pères et mères de famille qui ont été gardés dans des circonstances déplorables. C'est des intimidations, c'est des pressions que je pense inutiles parce que ces gens-là sortent renforcés, ils ne sortent pas affaiblis.
Pour Jacques, cette libération est un rayon d'espoir avant de conclure que le plus dur, ce sera pour les parents qui ne retrouveront jamais leurs enfants. Lui recherche toujours deux de ses neveux.
Les irrégularités du scrutin ont été confirmées cette semaine par l'Union européenne qui parle de manque de transparence. Irrégularités notamment dans la région du Haut-Ogooué. Écoutez ce qu'a dit mardi à Florence Maurice Maria Gabriel qui a dirigé la mission d'observation européenne au Gabon.
Nous avons vu en effet qu'il y a un réel manque de transparence, pour ne pas dire opacité, qui se révèle dans la gestion du processus dans cette province. Le taux de participation qui est annoncé officiellement est de l'ordre de 99,93%, ce qui est nettement supérieur à tous les autres taux de participation dans les autres provinces et qui en moyenne s'élève à 48%. Lorsqu'on regarde le nombre de non-votants et du bulletin blanc et nul, on s'aperçoit que les résultats finaux relèvent d'une véritable anomalie. Nous avons également pu constater que l'abstention qui est observée dans une des 15 commissions électorales locales à elle seule est supérieure à l'abstention qui est déclarée par la CNAP pour l'ensemble de la province. Donc les analyses que nous avons faites nous permettent de mettre en avant des éléments qui à ce moment échappent à tout raisonnement qui amène à une intégrité des résultats tels quels.
Finalement, le camp des vaincus, celui de Jamping, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle jeudi. Alors sur les tactiques des deux camps, écoutez ce que nous disait ce jour-là Sébastien Nemeth.
Deux camps, deux adversaires et deux tactiques totalement inverses. Jusqu'à présent, l'opposition avait toujours exigé un recomptage des voix à la commission électorale. Alors que la date limite du dépôt des recours approchait, l'opposition n'en démordait pas. Et finalement, le camp de Jamping a sauté le pas et a déposé un recours. C'était un choix tactique, explique un proche de Jamping, sans en dire plus. Trajectoire inverse, côté pouvoir, qui répétait qu'un recours allait être déposé pour contester les résultats de Jamping dans certaines localités. Mais finalement, à la dernière minute, le camp présidentiel n'a lancé aucune procédure. Ce n'est pas au vainqueur de déposer un recours, estime Leandrano Ekiki, le porte-parole du PDG. Le bras de fer devrait porter sur les procès-verbaux du Haut-Ogooué. L'opposition en produira 174 sur 297. Le pouvoir devrait dévoiler les siens. Alors comment savoir lesquels sont authentiques? Il suffira de comparer avec ceux récupérés par les autres candidats, puisqu'ils en reçoivent un dans chaque bureau, explique maître Jean-Rémy Mansansa, l'avocat de Jamping. Enfin, pour s'assurer de l'impartialité de la Cour, l'opposition demande un recomptage en présence de représentants des deux camps et d'observateurs étrangers. Le pouvoir, lui, dit qu'il prouvera une tentative de falsification informatique des résultats par l'opposition.
Notre adresse électronique.
semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Et oui, c'est le retour de vos messages. Continuez à nous écrire d'ailleurs plus que jamais en ce début de notre 20e saison. Donc, un salut aujourd'hui à Clara et Christine aux États-Unis. L'une est dans le Tennessee, l'autre en Floride. Bonjour à Ousmane qui est étudiant à Dakar, un fidèle qui a par exemple téléchargé la série de nos 8 émissions d'été, Les plaisirs du journalisme avec Claude Angéli du Canard Enchaîné. Un salut à un autre fidèle auditeur, Kobo Maurice à Ouagadougou, à Konaté et Chiaka à Bamako. Et Mehaman Anyame. Suite d'une semaine d'actualité, et là nous allons reprendre notre conversation après cette parenthèse de nos messages, Gabriel Martinez-Gros. Et je voudrais que l'on reparle de ce que vous développez dans le livre, ce livre, Fureurs islamistes et défaites de la paix. Quand on parle de cette notion d'islam dans la colonisation, vous dites que les colonisateurs, certains d'entre eux, les Français notamment, se sont alliés en quelque sorte avec l'islam.
Oui,
pour parvenir à s'installer.
Tout à fait. Dans les colonies. Tout à fait, tout à fait. Plus exactement, en particulier en Afrique. Oui. Et aux Indes, l'islam était dominant avant la colonisation européenne. Donc c'est lui qui a à la fois assuré la résistance dans un premier temps, puis une fois vaincu, il a servi de cadre intermédiaire de la colonisation dans les deux cas. Et puis, il faut bien dire que la colonisation, dans la mesure où elle était impériale, où elle construisait un empire, a mis ses pas dans les pas des empires islamiques déjà constitués, et qu'elle a été très souvent, parce qu'elle était le fait de militaires avant tout, elle a été très souvent fascinée précisément par les valeurs de violence de l'islam. Parce que l'islam comportait de valeurs guerrières, parce que l'islam, selon la théorie d'Ibn Khaldoun, a toujours laissé à ses marges subsister des zones de violence dans lesquelles les États islamiques prélevaient leur nécessaire violence.
Et ça, vous appuyant donc sur Ibn Khaldoun, vous insistez là-dessus, vous dites que l'islam est une religion née conquérante, c'est-à-dire que la notion de conquête pour l'islam est prédominante.
Tout à fait. En gros, il faut, dans le cadre de l'islam, inverser les choses par rapport au christianisme sur un point très précis.
Dans la pratique, oui.
En voyant l'histoire. C'est-à-dire que, en gros, le christianisme est né dans un empire déjà constitué, qu'il n'a pas constitué lui-même, j'entends l'empire romain, et il s'est constitué auprès des masses pacifiées et fiscalisées de l'empire romain, c'est-à-dire que cette religion a été d'emblée une religion d'autant plus pacifique qu'elle s'adressait à des masses pacifiées et qu'elle a été adoptée par des masses pacifiées. En quelque sorte, le pacifisme du christianisme a renforcé la pacification des masses de l'Empire romain et elle a abandonné la violence à l'État. Rend à César ce qui est à César. En gros, donc, dans le christianisme, vous avez une religion pacifique et un État qui s'efforce de conserver la nécessaire violence qui lui est indispensable pour fonctionner, bien sûr. Dans le cas de l'islam, c'est à peu près exactement l'inverse. C'est-à-dire que les ressources de la violence sont données par le message religieux et que c'est l'État, au contraire, qui pacifie. Hein, c'est le contraire du christianisme et donc le contraire de ce que nous, qui sommes de vieux chrétiens d'idéologie, nous concevons spontanément. C'est-à-dire la religion est pacifique, l'État, c'est une réalité dangereuse, violente, le cas échéant même guerrière. Dans le cas de l'islam, c'est au contraire l'État qui a servi à pacifier ce que la religion avait le cas échéant de belliqueux.
Et État qui ne se conçoit pas hors l'islam.
Absolument, évidemment. Qui ne se conçoit pas hors l'islam, mais qui décharge, c'est le cas par exemple dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire mamelouk, hein, qui s'efforce de réduire par exemple ce devoir de jihad que lui fait la religion, hein, c'est-à-dire ce devoir de guerre que lui fait la religion, ça n'arrange pas du tout les affaires de l'État. Si on revient à la théorie d'Ibn Khaldoun, il faut se souvenir que l'État est là pour prélever l'impôt et pour le prélever tranquillement l'impôt. Or, la guerre coûte cher et gêne le prélèvement pacifique de l'impôt. Donc, le but de l'État, au total, est de limiter le plus possible l'obligation de guerre, en particulier l'obligation de jihad que lui fait la religion. Ce que, d'ailleurs, les jihadistes reprochent aujourd'hui aux États musulmans. Ils leur disent, vous prétendez un État musulman, or, en fait, vous n'accomplissez pas la première des obligations de l'État musulman, qui est le jihad, c'est-à-dire la guerre contre les infidèles.
Donc, le jihadisme, phénomène universel, vous l'avez dit, hein, dans le monde musulman, même le monde musulman est menacé par le djihadisme,
tout à
il faut
fait.
Le souligner,
tout à fait.
Avec toujours cette différence, cette division, cette fracture entre chiites et sunnites.
Oui, c'est vrai, qui est de plus en plus spectaculaire. Peut-être peut-on citer ce que, à propos de la querelle récente, enfin, des derniers jours sur le pèlerinage de la Mecque entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ce qu'a dit le mufti du royaume d'Arabie saoudite. On a cité Khamenei, le dirigeant iranien, mais on a moins remarqué ce que disait le mufti d'Arabie saoudite. Ah ben, il a déclaré tout simplement que les Iraniens, et au-delà des Iraniens bien sûr, il avait en tête les chiites, que les Iraniens étaient des mages, hein, majus, hein, ce que les Africains, les vieux Africains comprendront. Hein, majus, ce sont tout simplement les païens, hein, les vieux mages. Donc que les Iraniens n'étaient pas tout simplement des musulmans. Et à travers les Iraniens, iranien, bien sûr, c'est l'ensemble du chiisme qui est ainsi de plus en plus exclu de l'islam. Et ce qui est caractéristique, c'est que si le grand moufti d'Arabie Saoudite peut le dire aussi tranquillement, c'est que son opinion est aujourd'hui partagée par beaucoup, beaucoup dans le monde sunnite.
Ça en dit long sur la fracture.
Ça en dit long sur la fracture. Elle est, alors qu'on la croyait totalement comblée il y a 50 ans, c'est une vieille fracture médiévale, bien entendu, mais alors qu'on la croyait complètement comblée il y a 50 ans, elle est aujourd'hui plus vive que jamais.
Et c'est une des sources du djihadisme, d'ailleurs.
Et c'est une des sources du djihadisme, parfaitement. L'opposition aux chiites, tout à fait comme l'opposition aux koufars, c'est-à-dire aux infidèles, qu'il s'agisse des Chinois en Asie centrale, qu'il s'agisse des Occidentaux en Europe, ou des Africains non musulmans pour Boko Haram ou pour d'autres mouvements islamistes, la présence même de chiites est un des ressorts, hein, un des stimulants du djihadisme. L'attentat de Tartous, par exemple, ça veut dire que tout chiite, puisqu'ils sont considérés comme des chiites, les alaouites de Syrie, tout chiite est bon à tuer. Hein. Ça veut dire que vous mettez une bombe au milieu d'une foule et peu vous importe que des femmes, des enfants y soient, hein, puisqu'ils sont chiites, ce sont des apostats, ils sont bons à mourir.
Il faut éliminer les chiites et les mécréants.
Absolument.
C'est-à-dire les occidentaux, ceux qui ne sont pas...
Les chiites plus encore que les mécréants.
Oui.
Voilà.
La nuance est importante. Merci Gabriel Martinez-Gros. Votre livre que je recommande s'intitule « Fascination du djihad, fureurs islamistes et défaite de la paix ». Il est publié au PUF. C'est un petit livre qui est un véritable coup de poing, qui est une manière de comprendre le djihadisme et ce qu'il représente aujourd'hui de façon très percutante. Merci.
Merci. Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Retrouvez-nous bien sûr sur le site de la radio RFI.fr. Rendez-vous demain, dimanche donc, pour le magazine Idée. Nous parlerons théâtre et d'un certain Shakespeare. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.